Tu es la résurrection et la vie. Et Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins. Seigneur, tu nous as donné ton esprit qui est venu à la Pentecôte pour vraiment accompagner l'Église, ton Église, jusqu'à ton retour. Et Seigneur, merci de ta présence ce matin. Que ta parole puisse devenir vivante dans nos cœurs et nous aider, Seigneur, nous aider à marcher de victoire en victoire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Un petit peu le message de la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, sur Pâques. Nous connaissons tous, enfin je pense que vous connaissez tous, cette affirmation de Jésus qu'il a fait à Marthe. Vous vous rappelez, Marthe et Marie? Et qu'est-ce qu'il a dit à Marthe quand il était devant elle dans Jean 11, 25? « Je suis la résurrection et la vie. » Vous connaissez tous ça? On le sait tous. Hein. « Je suis la résurrection et la vie. » Mais est-ce que vous connaissez tous la suite de ce verset? Quelqu'un peut le dire, non? Par cœur, non? Voilà, comme quoi, vous voyez, c'est bien d'écouter la parole. Il est dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous ne trouvez pas que c'est une parole étonnante? Je le relis. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est vrai qu'elle est une révélation. Moi, à l'âge de 20 ans, j'ai reçu une parole comme ça. Pour moi, c'est comme du feu, quoi. Voilà, c'est vraiment un feu qui m'a dévoré. Donc la parole devient vivante en elle-même, je veux dire, par la puissance du Saint-Esprit, elle devient vivante. Mais parfois, la parole aussi n'est pas toujours du feu. Bon, ça a été mon première expérience, mais ça n'a pas été durant toute ma vie, depuis 67 où je me suis converti. La parole s'adresse aussi à notre intelligence. Et parfois, notre intelligence est mise à défaut, comme un verset comme ça. On ne comprend pas comme ça du premier coup. Il faut être honnête. Ce n'est pas d'une limpidité absolue, hein, même si c'est Jésus qui le dit. Celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut aussi utiliser notre brain, notre cerveau. Voilà, Dieu nous l'a donné aussi, parce qu'il fait partie de l'intelligence de Dieu qu'il nous transfère, on est à l'image de Dieu. Alors que Jésus ait dit cela, alors attendez, en plus ça ne s'arrête pas là. Parce que Jésus ait dit ça à une amie qui croyait en lui, on peut encore le concevoir. Mais qu'il le dise à des incrédules, à des juifs qui ne croient pas dans le Messie et qui venaient de le traiter de fils du diable, des juifs qui disent à Jésus, tu es le fils du diable, cela est plus étonnant. Alors regardez ce qu'il dit à ces juifs dans Jean chapitre 8, toujours, verset 51. Il dit, en vérité, alors quand il commence comme ça, Jésus, en vérité, ça veut dire qu'on ne peut pas remettre en question, déjà, naturellement, on ne va pas remettre en question ce que dit Jésus, mais là, en vérité, je le dis, si quelqu'un garde mes paroles, il ne verra jamais la mort. Voyez-vous, donc il insiste, Marthe, ensuite après aux incrédules, il le dit. Et qu'est-ce qu'ils disent ces juifs? C'est intéressant. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent ces juifs? Eh bien, ils disent, maintenant, nous savons que tu as un démon. Intéressant, hein, quand même. Oui. Jésus dit une vérité de la parole. Il proclame une vérité. En vérité, en vérité. Et ils disent, bon, ça y est, maintenant, on a compris que tu as un démon. Hello. Tu es avec moi, là? Oui, c'est formidable, la parole de Dieu. Et nous décrit des choses de la réalité quotidienne que nous vivons encore aujourd'hui. L'incrédule aujourd'hui, n'est pas différent de l'incrédule de l'époque de Jésus. Ils disent, ça y est, c'est des fous, voilà, bon, les chrétiens, voilà, il faut déchristianiser le monde, parce que, voilà, etc. Bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Et là, ils disent même, tu as un démon, ça y est, maintenant, on est fixé, voilà. Jésus, il est catalogué. Et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi ces mêmes juifs vont l'amener à la crucifixion. Qui seront persuadés, voyez-vous, souvent les chrétiens, ils spiritualisent. Là, ils spiritualisent. Ils disent, il a un démon. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Mais il se passe qu'ils sont en train de développer une stratégie pour se justifier de faire une bonne chose que de crucifier Jésus. Parce que l'être humain, quand même, il a été créé à l'image de Dieu, il a une certaine justice. Et du coup, il faut qu'il développe une stratégie pour se justifier des choses qu'il fait. S'ils mettent Jésus à mort, c'est qu'ils ne sont pas coupables, vous voyez. C'est la justice. C'est comme il a un démon, c'est bien parce qu'on va débarrasser l'humanité d'un démon. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc attention à la spiritualisation. Attention à la spiritualisation. Dès qu'on parle de démons, de machins, etc. C'est pour ça qu'on est très prudent dans le ministère de délivrance, c'est qu'on a adopté le torrent qui purifie, qui est très, très équilibré dans son enseignement et dans sa pratique. Au passage, la prochaine retraite, c'est le 20 mai, et même ceux qui n'ont pas suivi le parcours, ils sont les bienvenus dans le sens où, vous voyez, on n'est pas là à l'école, hein, vous n'êtes pas à l'école, vous êtes tous adultes, responsables, etc. Et donc on offre cette retraite à tous. Bon, il y aura juste quelques consignes une semaine avant de vous préparer, parce que voilà, c'est un temps de retraite spirituelle où on prie pour ceux qui viennent. Voilà. Mais je le dis au passage parce que c'est une liberté que nous donnons toute l'Église pour assister à cette retraite qui aura lieu le 20 mai, bien sûr en priorité, ceux qui suivent le parcours. Cette déclaration de Jésus que je viens d'énoncer, tous les croyants ne sont-ils pas morts? C'est que la Bible, que la mort se présente dans la Bible sous deux aspects, vous voyez. Ce sont deux conséquences du salaire du péché. Il faut bien comprendre qu'il y a deux types de morts, et vous le savez, c'est un, la mort spirituelle, parce que nous sommes nés dans le péché et nous sommes tous incapables d'accéder à la réalité de Dieu. Parce que Dieu a placé des anges devant le jardin, etc. Il faut veiller à Genèse 4. Et c'est normal, parce qu'en tant que pécheur, on ne peut pas retourner dans cet endroit où il n'y a pas de péché. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Donc il y a une conséquence, mais il y a aussi une rédemption, c'est-à-dire un plan que Dieu a prévu pour pouvoir retourner. Et ça, c'est le plan de rédemption. Mais pour l'instant, la mort spirituelle, c'est que tous nous sommes incapable d'accéder à la réalité de Dieu. La deuxième chose, c'est la mort physique. Et personne n'y échappe. On vient de prier pour Touti qui est parti, mais nous allons partir. Or, c'est ce que Jésus est venu changer, justement, en apportant la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 5, Jésus parle de la résurrection spirituelle et de la résurrection physique. Il dit au verset 25 du chapitre 5, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Alors bien sûr, Jésus parle dans Jean 5, après avoir parlé dans Jean 3. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 3, l'évangile de Jean, chapitre 3? Une rencontre remarquable, deux rencontres remarquables. C'est Nicodème et la Samaritaine. Et Nicodème, eh bien, au travers du récit Nicodème, nous apprenons nous aussi, comme Nicodème l'a appris, qu'il faut naître de nouveau. Ce n'est pas une naissance physique où on re-rentre dans le ventre de sa mère, ça c'est une naissance naturelle, mais une naissance spirituelle. Il faut naître d'en haut. Voilà. Toujours au chapitre 5, versets 28 et 29, il dit « Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui ont fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui ont pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Voyez-vous, on parle de deux choses. La résurrection spirituelle, donc la naissance nouvelle, que tous on est amené à chercher. Et si vous êtes là, c'est ce qui vous est arrivé. Et la deuxième résurrection, la résurrection des morts, que nous attendons aujourd'hui jusqu'à ce qu'elle vienne. Alors, pour un petit peu rentrer dans l'enseignement, la doctrine de la résurrection des morts, on va aller dans 1 Corinthiens 15, où là, tout le chapitre en parle. Donc, il y a énormément de versets, et je ne lirai pas tout, parce que j'en aurai pour un quart d'heure à lire. Il y a 58 versets sur la résurrection de Christ. Donc, aujourd'hui, je n'aborde pas la résurrection de la nouvelle naissance, c'est Nicodème, c'est Jean 3, mais ça, je pense que vous en avez assez d'informations pour savoir qu'il faut naître de nouveau. Mais là, on va parler de la résurrection physique. Si on prend les premiers versets du chapitre 15 de 1 Corinthiens, alors les versets, c'est de 1 à 11, qui présentent le cheminement de la pensée de Paul. Je lis juste le début. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a vécu par ses faces. Il a été vu, pardon, par ses faces, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. La résurrection physique de Jésus a été vue et attestée par des témoins oculaires qui ont vu Jésus. Et c'est ça que l'apôtre ici eh bien, nous rapporte. C'est un fait historiquement attesté. D'ailleurs, c'est tellement vrai que les opposants à cette résurrection, parce qu'il y en avait, puisque les Juifs ne voulaient pas que ça soit présenté sous cette forme-là, et les Romains non plus, parce que c'était une grosse claque pour eux, pour d'avoir, parce que même sur le plan politique, si vous voulez, c'est embêtant pour un gouvernant, un empire comme Rome, de se tromper si lourdement, parce que vous savez, un empire, un gouvernement, il a toujours peur de la rue, des révoltes de masse, parce qu'ils veulent la paix. Ils veulent jouir des biens, donc il faut la paix. Voilà. Donc il faut s'arranger pour que le peuple reste dans la paix. Donc il faut masquer. Donc ils ont masqué. Mais ils n'avaient pas besoin de masquer, ce n'était pas vrai. Okay, donc qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont fait venir les gardes, ils ont dit, vous n'avez rien vu. Hein. Et hop, l'argent. Donc ils ont acheté. Ils ont acheté le silence. Et c'est encore une preuve supplémentaire que ça a eu lieu, parce qu'ils n'auraient pas eu besoin d'acheter s'ils n'étaient pas arrivés. Enfin, ça c'est une parenthèse. Donc la résurrection physique de Jésus a été attestée par l'histoire ancienne, et ceci par 5 documents principaux, et non seulement par un seul historien, mais c'est attesté par énormément d'historiens de l'époque. La foi, et l'apôtre dit que si on ne croit pas à cette résurrection, la foi... Vous avez la foi ? La foi est vaine. Je dirais, ça ne sert à rien. La foi chrétienne n'a de sens que si nous croyons la résurrection. Parce que c'est la seule chose qui nous sépare de toutes les autres religions. Toutes les autres religions. Il n'y a aucune religion. Le bouddhisme, c'est une philosophie. Bon. Mais Bouddha n'est pas ressuscité des morts. Mahomet n'est pas ressuscité des morts. Et il n'y a aucune religion sur la terre qui n'a cette vérité historique que nous avons en tant que chrétiens, que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il a un nouveau corps. Je vous rappelle, frères, au verset 1 et 2, par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes que je l'ai annoncé. Les termes de la Bible sont importants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui veulent changer les termes de l'évangile, des nouveaux évangiles, un nouveau des... Non, l'évangile est toujours le même pour toute l'histoire et pour toute l'éternité. Jésus est mort et ressuscité et il est venu pour un but, pour nous sauver. Les Sadducéens et les pharisiens. Quelle était la différence entre les Sadducéens et les pharisiens? Vous le savez, je pense, je reviens plusieurs fois là-dessus. Parce que vous le lisez tout le temps hein, dans la Bible, si vous avez l'habitude de lire le Nouveau Testament, je l'espère pour vous, vous tombez tout le temps sur ces termes, Sadducéens et pharisiens. Pharisiens, vous le savez, hein, c'est des gens qui sont très près de la loi, mais les Sadducéens, c'est qui? Oui, mais c'est qui? L'identité, c'est des descendants de Sadoc. Sadducéens. C'est plus facile. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc j'aime bien savoir d'où ça vient, ce qui fait que ça me permet de. Ah oui, d'accord. C'est Sadoc. Et Sadoc, c'est qui? C'est un souverain sacrificateur du temps de David. Alors là, bien sûr, il faut connaître un peu l'histoire biblique. Mais si vous savez qu'au temps de David, il y a eu Sadoc qui a remplacé Aaron, parce qu'il y a eu une histoire entre deux sacrificateurs qui étaient l'un pour Saül, l'autre pour David. Enfin bref, ça c'est l'histoire biblique. Là aussi, je vous renvoie à l'école du dimanche. Et donc Sadoc, à un moment donné, il a hérité du pouvoir de sacrificateur, qui est une lignée comme celle d'Aaron, parce qu'elle remonte à Aaron, si vous voulez, mais c'est Sadoc. Et les Sadducéens, c'est des disciples de Sadoc. Et donc c'était des princes, c'était ceux qui dirigeaient, qui gardaient le temple. Parce que Aaron, il a hérité de garder le temple, de garder le sacrifice des sacrificateurs. À l'époque, il y avait deux types de personnes en Israël. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les laïcs. C'est pour ça que l'Église catholique a copié ça, c'est tout. C'est une copie. Ils ont pas, ils sont pas creusé la cervelle beaucoup. C'est judaïque. Mais nous, on ne vit plus sur le judaïsme. Hein. La parole de Dieu dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Oui. Ça a changé, heureusement. Luther a passé par là il y a 500 ans, dont on fête la réforme cette année. Et donc les Sadducéens, ce sont des descendants de Sadoc qui doivent garder le temple. Ce sont ce qu'on appelle les gardiens du temple. Vous avez déjà entendu cette expression? Les gardiens du temple. Alors, vous voyez, quand vous êtes gardien du temple, attention, hein, ça vous monte à la tête quelque part, hein, si vous n'êtes pas humble. Hein. Heureusement, il y a des gens qui sont humbles, et en particulier Siméon, qui était dans le temple. Mais lui, il a reconnu Jésus comme un bébé parce qu'il attendait la venue et le Saint-Esprit lui a parlé. Vous voyez, il y a deux types. Il y a ceux qui sont imbus de leur connaissance et ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu et à qui Dieu parle dans leur cœur. Il a dit, j'ai vu le salut et maintenant mes yeux peuvent se fermer. J'ai vu le salut d'Israël. J'ai vu le Messie. Et ça, vous sentez la paix. Voyez. Alors que les Sadducéens, ils sont obligés de payer les gardes pour qu'ils se taisent en les corrompant leur témoignage. Voyez. Ils sont obligés de ça. Ça, c'est les Sadducéens. Et les Sadducéens, non seulement ils sont corrompus par l'argent du temple, parce que rappelez-vous que Jésus, il a mis un pied dans tout leur truc, parce que c'est eux qui laissaient ça. C'est eux qui laissaient cette corruption dans le temple, d'accord, contre les marchands du temple. Okay. C'est les Sadducéens qui sont responsables du temple, je rappelle. C'est les Sadducéens, non seulement ça, mais ils ont fait du syncrétisme avec leur culture. Il n'y a rien de pire que de mélanger la Bible avec notre culture. Et nous le faisons tous. Hein. Qu'on vienne des Caraïbes, qu'on vienne de la Réunion, qu'on vienne de tous les départements français, qu'on vienne de l'Alsace, de Corse, ou de Bretagne ou de l'Île-de-France, peu importe. On fait du syncrétisme parce que c'est comme ça qu'on était habitué, on a été élevé comme ça dans la culture. Pour nous, la culture est importante. Le problème, c'est que si on ne fait pas un travail là-dessus et qu'on prend la culture pour la comparer à la parole et qu'on dit ça... Tac, je coche, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est... Il faut que je vois, bon, j'attends, c'est pas évident, voilà, etc. Si je fais pas ce travail-là, et je dis tout ce qui est en rouge, je me repens de ça, et je le laisse, bon, on est dans le syncrétisme. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Qu'on le veuille ou pas, on fait du syncrétisme si on fait pas un travail d'inventaire. Il faut faire un travail d'inventaire. Et retenir ce qui est bon. Tout dans la culture n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mauvaises. Je suis désolé. Je ne vais pas revenir là-dessus. En France, nous, on a fait ça dans l'Église, dans les années 98. On ne va pas refaire tout le temps, mais les nouveaux, je vous invite à le faire. Parce qu'on a dit non, ça, on n'accepte pas. Donc, français, ce n'est pas possible. Ça nous empêche de vivre notre vie chrétienne. Ceci étant, les Sadducéens, à l'époque, ils avaient accepté la philosophie grecque. Et oui, c'était des philosophes. C'est sûr que les grands de ce monde, ils veulent être des philosophes. Parce que tous ceux qui ont réfléchi à la stratégie politique, que ce soit Machiavel ou d'autres, ils ont dit, ou Platon, etc., qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le meilleur des gouvernants, parce qu'on parle de gouvernance, c'est qui? Ils disent, si vous cherchez un idéal de gouvernance, voilà, c'est quoi l'idéal d'un gouvernant? Quelqu'un qui est à la tête d'un État. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les philosophes? Ah, c'est bien.
Un philosophe.
Il a toutes les réponses. Bravo. Voilà ce qu'il écoute à l'école. C'est un sage. Si vous mettez un sage, c'est voilà. La philosophie, il trouve pas. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué, la philosophie. Bon, la preuve, c'est que c'est juste un sage. Et oui, mais la sagesse, c'est de savoir choisir, etc. Donc, vous mettez à la tête un sage, donc élisez un sage aujourd'hui. Si vous connaissez un sage, bah, élisez-le. Vous suivrez les philosophes qui vous disent c'est un sage. Mais vous croyez que même un sage, ça suffit? Je reviens là-dessus, parce que bon, c'est vrai que là, je fais un peu de digression, mais en même temps, on est dans l'actualité. Aujourd'hui, on fait les élections. Voilà, pour qui voter? Les philosophes. Puisque je parlais sadducéens, vous disent élisez un sage. Et là, toute la littérature philosophique, etc., parle de cette sagesse. J'ai cité Machiavel, Platon, etc. Et tous disent l'idéal, c'est un sage. Et le sage, il va gouverner avec sagesse. Et le pays va prospérer, etc., etc., etc. Okay, je vous dis ce que disent les philosophes. Est-ce que vous croyez que si aujourd'hui vous trouvez un sage, si toutefois il existe, ça marchera? Hello, vous êtes mort, vous réfléchissez, c'est ça, réfléchissez. Moi, j'ai aucun doute pour dire tout de suite non. Bon, ben, personnellement, j'ai aucun doute là-dessus, c'est non. Pourquoi non? Si j'étais pas chrétien, je dirais oui. Je serais philosophe, parce que c'est quand même le mieux, hein. C'est quand même mieux un sage qu'un dictateur. Mais ceci étant, moi, je dis non parce que je connais la parole. Qui dit quoi? Que Dieu a décrété, il a décrété. Est-ce qu'il a le droit de décréter au fait Dieu? Ben non, il n'a pas le droit. Bon. Ben, il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 27, que Dieu a décrété que la sagesse des hommes, c'est de la poubelle. Ben, voilà, je caricature, mais relisez 1 Corinthiens 27. C'est de la folie pour Dieu. Parce que si, dans leur sagesse, ils avaient reconnu Jésus à l'époque où il y avait les Sadducéens, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça, c'est le développement de la parole de Dieu qui explique pourquoi Dieu décrète que c'est de la poubelle, que c'est de la folie. Et pourtant, tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu, pour eux, c'est ça la norme, c'est ça le meilleur choix, c'est ça le choix qui va donner lieu à une nation prospérée. Alors, vous êtes avec moi là? Vous me suivez? Voilà. Donc, je ferme la parenthèse pour dire que les Sadducéens, ils niaient la résurrection parce que les philosophes nient la résurrection. Parce que la résurrection ne rentre pas dans leur sagesse. Pourquoi? Parce que naturellement, ils ont compris, comme nous aussi on a compris, que le corps est imparfait. Il y en a qui ont découvert ça. C'est une grande découverte. Hein. Il faut être Einstein pour trouver ça. Le corps est imparfait. Il a des maladies. Il va mourir. C'est complètement imparfait. Il apporte des problèmes. Il y a quelqu'un qui n'a aucun problème dans son couple. C'est parfait, c'est harmonieux, c'est voilà, vous entendez tout le temps et tout ça. Non, bon, ça vient de l'aspect corporel, naturel et tout ça. Voilà. Donc il y a plein de défauts. Il y a les passions. Hein. Il y en a qui se plaignent parce que le mari joue l'auto, j'espère que ce n'est pas le cas ici. Voilà. Donc il y a des passions, voilà. Et puis après, on a du mal à joindre les deux bouts, les femmes ont des problèmes, enfin bref. Voilà. Je ne vais pas faire le pan générique de tout ça. Le corps, les philosophes, les grands sages ont compris que voilà, c'était, il fallait surtout se débarrasser du corps. Et les Sadducéens, qui sont gardiens du temple, ils ont adopté cette philosophie. Et du coup, ils ont considéré comme les philosophes qui disent, non, le corps c'est mauvais, et l'esprit, il est bien. Alors qu'est-ce que dit Jésus à ces Sadducéens et les philosophies qui sont derrière? Il dit, au verset 22 et 29 de Matthieu, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On le répète ? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Fantastique. Quand on sait que Paul dira, l'Évangile est une puissance. L'Évangile est une puissance. Voilà, l'Évangile n'est pas juste une parole, ce n'est pas juste un développement philosophique, ce n'est pas un développement de sagesse, c'est une puissance. Et Jésus dit à ses gardiens du temple, qui sont les Sadducéens, vous n'avez rien compris ni à l'Écriture. Pourquoi? Parce que l'Écriture, elle dit depuis la Genèse qu'il y aura un Messie qui allait ressusciter. Donc déjà, ils ne comprennent pas les Écritures et qu'ils doivent conduire des âmes des Israélites dans la parole. Tant je rêve, quoi. Les chefs spirituels d'Israël ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comment voulez-vous qu'ils conduisent le peuple? C'est pour ça que Jésus dira, c'est comme deux aveugles qui marchent et qui tombent dans le trou. Si tu es aveugle et tu dis, je vais te conduire, il y a un trou devant, mais tu tombes dedans et puis tu entraînes l'autre, quoi. C'est ça. Je veux dire, c'est ça la réalité. Ne soyons pas des aveugles. Donc ça, c'est du verset 1 à 12. Il faut que je tienne mon timing. Du verset 12 à 19. Ceux qui nient qu'il y a une résurrection physique nient du même coup celle de Jésus. Si, comme les pharisiens, les sages de la philosophie disent qu'il n'y a pas de résurrection, du coup, vous êtes condamnés à ne pas croire la résurrection de Jésus. C'est normal, parce que si on ne croit pas en principe physique, si je ne crois pas que si je prends cette Bible et je la laisse tomber, elle ne tombera pas, elle tombera quand même. Oui. Je veux dire, c'est parce que la loi, elle va s'appliquer, et puis c'est tout. Donc si je ne crois pas à la résurrection tout court, je ne crois pas à la résurrection de Jésus. C'est ce qui est arrivé au chef des Juifs. Alors il y a une chose, je suis d'accord avec vous, que la résurrection, elle n'est pas démontrable scientifiquement. C'est quoi la science? Moi, je suis scientifique, mais je ne reste pas juste à ce qu'on m'a appris à l'école. J'essaie de comprendre comment la science fonctionne. Et j'ai appris une chose, il y a plusieurs types de sciences, la science spéculative et la science opérative. Moi, j'aime la science opérative. C'est quoi ça? Ce qu'on appelle la démarche scientifique. Une démarche scientifique opérative, c'est quatre choses. C'est pas comme le TQP 4R, mais il y a quatre choses qui est une démarche. Observation, description, hypothèse, comparaison. Et ensuite, après, ça recommence. Observation, description, hypothèse, comparaison. C'est ce qu'a fait tous les grands scientifiques. Je pense à comment ils s'appellent ceux qui ont Marie Curie et son voilà, Pasteur, enfin tous les scientifiques qui ont découvert des lois naturelles que Dieu a créé, c'est ce parcours-là. Observation. J'observe, tiens, c'est curieux qu'à chaque fois je prends quelque chose, ça tombe. Voilà, c'est observation. Voilà. Mais c'est vrai par toutes les lois. J'observe. Je décris. J'essaie de décrire. Donc il faut être précis dans la description. Plus vous décrivez, plus vous allez trouver la loi que Dieu a créée derrière. Donc vous décrivez la chose. Dites, tiens, une tonne de plumes tombe plus lentement qu'une tonne de plomb. C'est bizarre, vous voyez. Donc, vous commencez déjà par la description à vous approcher de la loi. Parce que F égale M gamma, donc gamma égale 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, pour trouver ça, Alors, mais bon, j'ai appris ça à mes enfants. Donc pour trouver ça, il faut aller plus loin. Il ne faut pas juste observer. Il faut aller à Mont Blanc, voir au Mont Blanc à quelle vitesse ça tombe, etc. Et puis après, voilà. Et donc il faut décrire, si on veut être scientifique. La troisième démarche, c'est hypothèse. Je pose un postulat, mais je le pose. Je dis, ah, peut-être F égale 2 gamma. Bon, je vois que ça ne marche pas. Je le compare. Donc après, je fais des expériences. Je fais des expériences. Je fais 1, 2, 3, 4. Il en faut 70 au minimum pour dire c'est reproductible. C'est ça la science. Hein. Science opérative, hein, pas spéculative. Et au bout de 70 fois, je dis, oh ben, c'est bien, alors je les mets sur un point. Et après, j'ai besoin des mathématiciens. Hein, donc, des mathématiciens qui disent, est-ce que c'est droit, est-ce que c'est parabolique, est-ce que... Et je trouve la formule mathématique qui ensuite, après, c'est pour ça que F égale M gamma, c'est une accélération, donc c'est la vitesse au carré, etc. Donc, il fallait la trouver par juxtaposition des points. Voilà. Et ensuite, après, si je vois que ma formule mathématique ne correspond pas, je commence. Tchou. Observation, description. Voilà. Des fois, ça dure 40 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans. Il y a des scientifiques qui ont passé toute leur vie à trouver, qui n'ont pas trouvé. C'est les suivants qui ont trouvé parce qu'ils ont utilisé leur travail. Et ça, c'est de la science. C'est pas mauvais. C'est simplement découvrir les lois de Dieu, naturelles. Pourquoi je dis ça? Je ne m'en rappelle plus. La résurrection. La résurrection, elle n'est pas démontrable. Voilà. Comme d'ailleurs, le Big Bang n'est pas démontrable. Je veux dire, l'origine, on fait un procès à juste titre à Darwin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas accessible à la science. Vous ne pouvez pas refaire la création du monde 70 fois. Vous voyez, pour trouver une loi et une thèse valable. C'est pas juste spéculer comme l'a fait Darwin et que tout le monde comme des moutons disent ce qu'il a dit, mais ce serait 70 fois refaire la création du monde. Vous imaginez ça? S'il y a des scientifiques qui veulent y aller, il y en a qui y aller, mais sinon ils n'ont pas droit au chapitre. Et on peut faire une hypothèse et ça reste une hypothèse. Donc le Big Bang et tout le bazar, c'est pareil, c'est pas accessible à la science. C'est accessible à la foi, c'est de croire. La résurrection, il n'y a que Jésus qui est ressuscité. Nous, on ressuscitera avec lui, c'est une expérience qu'on fera, mais on ne peut pas le démontrer. Le corps de Jésus, pourquoi il est comme ça en étant ressuscité, ce n'est pas accessible à la science, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Donc c'est accessible à la foi, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est faux, dire que ce n'est pas vrai, simplement ce n'est pas accessible à cet outil que je vous ai démontré rapidement, qui est utilisé par les scientifiques. Donc, nier la résurrection, c'est faire preuve, non pas de connaissance scientifique, mais d'ignorance de Dieu. Et c'est ce que Jésus reproche aux Sadducéens. Il dit, vous êtes ignorants, en disant ça, qu'il n'y a pas de résurrection, tout court, hein, ça suffit, vous êtes, un, ignorant des Écritures, et deux, eh bien, vous êtes ignorant de la puissance de Dieu. Nier la résurrection, c'est donc non pas faire preuve de connaissances scientifiques, mais d'ignorance de Dieu. Plus grave, c'est se perdre. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés, dira l'apôtre, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 16 et verset 17 du chapitre 15 de 1 Corinthiens 15. On va passer à la suivante, vous relirez chez vous, verset 20 à 29, le verset 20 commence « Maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. » Les conséquences de la résurrection. Alors les conséquences de la résurrection, c'est que 1, Romains 4, 25 dit « Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. » Pourquoi il est ressuscité ? Pour notre justification. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne peut pas, il n'y a que des justes qui sont dans le royaume, figurez-vous. Et heureusement, parce que sinon, on aurait les mêmes problèmes que sur terre, avec l'injustice. Vous voyez ? Non, il n'y a que la justice, parce qu'il n'y a que des justes qui sont dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et ça, ça trait au passé. Car la question de la condamnation à cause du péché a été liquidée à la croix par Jésus il y a 2000 ans. Deuxièmement, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, il dit « Dieu nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Ce n'est pas juste un espoir, ce n'est pas juste une espérance, c'est une espérance vivante. Dans 2 Corinthiens, donc, verset 17, il est dit que nous sommes de nouvelles créatures et nous vivons dans le but d'hériter le royaume éternel de Dieu. Alors ça, c'est le passé et le futur. Concernant la résurrection, il y a le futur dans Romains 8, versets 11 à 23. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. » Passons du verset 30 au verset 34. La négation de la résurrection entraîne la négation de toute morale. C'est pour ça que l'Antichrist, qui en anglais est mieux traduit qu'en français, ça s'appelle lawlessness, l'homme sans loi, eh bien, va apparaître à la fin des temps, parce que les gens ne veulent plus de loi, ils veulent être une loi pour eux-mêmes. Il est dit que si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est logique. Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas d'espérance. Ben, il faut s'amuser. Il faut que la planète entière devienne un parc d'attractions. Pour certains, c'est Disneyland. Pour d'autres, c'est Monte Carlo. Pour d'autres, c'est les voitures. Peu importe. Il faut faire de cette planète une planète de loisirs. Amusez-vous. Club Med, un peu partout. Est-ce que j'exagère ou pas? Je fais un petit peu de politique, mais je ne vais pas très loin. Vous savez à quoi la France est destinée par ces grands messieurs qui réfléchissent à ça pour notre bien? Et ça, c'est connu, je veux dire, c'est pas un scoop. Hein, si vous... Mais la France doit devenir le pays du tourisme. Vous n'êtes pas sûr, regardez un peu. Voilà, pays du tourisme. Alors déjà, on est les premiers au monde. Hein, il y a plus de 65 millions de touristes en France. Hein, c'est le premier au monde. Donc pourquoi pas pousser un petit peu les choses et puis voilà, faire que voilà, il n'y a que des touristes, on va accueillir 125, 200 millions de touristes, voilà, et on va vivre du tourisme. Bon, c'est une décision, hein, bon. Voilà, c'est juste une fermée la parenthèse, mais pour montrer que qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous avons une espérance vivante ou est-ce que nous avons une espérance qui est morte? Notre espérance, c'est de ressusciter avec Jésus et de vivre dans le royaume éternel. Amen. De 35 à 49. Alors attention, accrochez vos ceintures. Là, c'est le corps du message ce matin, 35 à 49. Alors, ça commence. Mais si quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie, etc. Jusqu'au verset 49 qui termine, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Là, c'est le comment de la résurrection. Voyez-vous, dans tout ce chapitre, Paul apporte toutes les questions. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, etc. Il est très très systématique dans son explication. Là, c'est le comment. Comment est-ce qu'on ressuscite? Hi, ça vous intéresse ça? Comment est-ce que vous allez ressusciter? Alors Paul montre que toute semence, c'est dommage, en ce moment je suis en train de semer dans mes serres parce que sinon ça ne pousse pas, j'aurais dû importer les semences. Mais vous voyez très bien ce que c'est une semence. Hein. Bon, voilà. J'apporte une petite semence, vous ne la voyez pas, j'ai une semence. Cette semence, en elle-même, elle contient quoi? Elle contient la plante qui va pousser et que je vais récolter. C'est pour ça que je sème, hein, c'est ce que j'ai l'espérance qu'il y a quelque chose qui va, hein, que ce soit des betteraves, que ce soit des carottes, que ce soit des navets, que ce soit des rhubarbes, que ce soit cette plante-là, enfin bref. Donc, Paul montre que toute semence doit mourir. Vous avez compris ça, que toute semence doit mourir? Ce que je sème dans la terre, je ne peux plus le récolter. C'est perdu. C'est perdu parce qu'il va se produire quelque chose. Okay. Donc toute semence doit mourir pour qu'il y ait un fruit qui puisse naître. Ça, c'est un principe de la nature. Mais Jésus s'appuie sur les réalités de la nature parce qu'il y a aussi une réalité spirituelle. Deuxième principe. Je suis scientifique, vous avez déjà remarqué. Premier principe, c'est ça. Deuxième principe, on va aller plus loin. Est-ce que vous avez remarqué que plus... que plus le fruit est compliqué, moins il ressemble à la graine au départ. Non ? Plus le fruit est compliqué, alors je vais vous donner un exemple, moins il ressemble à la simplicité. À la limite, je peux comprendre qu'un grain de blé donne du blé, parce que voilà, etc. Alors, le grain de blé produit un épi, le pépin produit la pomme, la chrysalide, le papillon. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Voyez-vous. La chrysalide, vous voyez ce que c'est ? C'est la chenille, là, qui devient un papillon. Le spermatozoïde produit l'homme. Vous avez déjà vu un spermatozoïde ? Au passage, moi, j'étais un peu étonné, mais c'est vrai, c'est que jusqu'à il y a 50 ans, on ne savait pas comment se produisait une naissance d'un enfant. 50 ans. C'est pour ça qu'il y a tous ces mythes, c'est pour ça qu'il y a toutes ces explications mystérieuses de la femme qui est à l'origine du monde vivant. Vous voyez, c'est ce mystère. Parce que jusqu'à 50 ans, on ne savait pas. Je suis désolé, cherchez. Et pourquoi on le sait depuis 50 ans ? Grâce à la science qui a inventé les microscopes électroniques. Ce qui fait qu'on a pu voir le spermatozoïde, mais sinon on ne le voyait pas. On ne savait pas comment ça se produisait. Donc on expliquait, comme au temps de Galilée, on expliquait le soleil qui se couche, etc. Voilà. Et on s'est trompé. Et comme quoi la science peut être un apport intéressant. Dans versets 42 à 49, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, dira l'apôtre Paul, semé corruptible, on ressuscite incorruptible, etc. Enfin, » il y a toute une... c'est assez compliqué, c'est une explication. Bon, j'essaie de vous simplifier, parce qu'on me dit que je suis compliqué, mais j'essaie de simplifier la parole. Paul aimerait montrer deux choses. La première est la différence entre le corps céleste, qui présuppose un corps terrestre, c'est-à-dire naturel et psychique. Ce qui est animal, dira-t-il, vient d'abord, ensuite ce qui est spirituel. La transformation de l'un dans l'autre est appelée une métamorphose. Dites ce mot, métamorphose. Métamorphose, c'est la résurrection. Le principe de la résurrection, c'est la métamorphose. Et ce qui s'explique le mieux, c'est dans le chenille vers le papillon. Vous n'imaginerez jamais un papillon, si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, qu'il va sortir de la chenille. Allô ? Voilà. Donc vous ne pouvez pas imaginer la résurrection du corps, parce que d'une part, bon, ceux qui ont vu Jésus, ils peuvent l'imaginer, parce qu'ils l'ont vu, mais nous, on ne l'a pas vu. Mais pourtant, aujourd'hui, il est ressuscité et il vit. Mais grâce au fait que vous avez vu un papillon, vous pouvez dire, ah oui, c'est vrai, mais voilà, vous êtes toujours aussi étonné de voir cette métamorphose du papillon. L'idée que la chenille devienne papillon paraît insensée, autant s'imaginer que des cochons puissent voler. Vous pouvez imaginer des cochons qui volent ? Bon, heureusement, c'est pour les contes de fées. Mais le papillon, voilà. Donc vous voyez, il faudrait imaginer que des cochons puissent voler pour arriver à comprendre la résurrection. Mais Dieu ne demande pas de la comprendre, il dit de l'accepter par la foi. Pourtant, la chenille est bel et bien un papillon. Et dans un sens, la chenille meurt pour donner naissance au papillon. On revient au premier principe. Il faut mourir pour devenir. Et c'est le principe que Jésus va énoncer lorsqu'il fonde son Église. Dans Matthieu 16, quand il fonde son Église, il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour ne prévendront point contre elle. » Tout de suite après, il dit « Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même et prendre sa croix. » Ça, c'est la mort. Si cette mort n'existe pas, on ne peut pas devenir un papillon. On ne peut pas recevoir le corps de résurrection. Dans la nature, rien ne se perd, tout simplement. La mort n'est pas non plus une perte, pas du néant, mais c'est une métamorphose. Il y a deux éléments qui vont se joindre, c'est le spermatozoïde et l'ovule, comme d'ailleurs dans le monde animal et végétal, il y a la fécondation. Quand ces deux cellules se rencontrent, elles ne forment qu'une seule, mais nouvelle. Ni le spermatozoïde, ni l'ovule ne continuent à exister. Ils sont tous les deux morts pour produire quelque chose de nouveau. Leur mort est à la base qui permet la métamorphose en un nouvel individu. L'ovule cesse d'être ovule, le spermatozoïde cesse d'être spermatozoïde. Cependant, après cette mort, chacun commence à vivre d'une vie beaucoup plus complète qu'avant. Car le but du spermatozoïde est de rencontrer l'ovule et le but de l'ovule est de rencontrer le spermatozoïde. Alors si on applique ça à la résurrection spirituelle, un autre texte ici de 1 Corinthiens 15. La résurrection spirituelle, c'est la nouvelle naissance. On est d'accord, on ne vient pas là-dessus. Christ est mort et nous mourons à nous-mêmes en tant qu'individus pécheurs. Et nous nous unissons à Christ, alors nous sommes en Christ. C'est ce que dit Romains 6, 5 à 9. Le Christ et l'homme nouveau en Christ que nous sommes, donc le Christ et l'homme nouveau en Christ, est-ce que je suis là? Ils gardent leur individualité. Voilà. Comme le spermatozoïde et l'ovule. Ils gardent leur individualité. Vous voyez, ce n'est pas une fusion nucléaire, là. Voilà. Donc, tous les chromosomes et tous les gènes du spermatozoïde et de l'ovule continuent à exister dans le zygote, ça s'appelle le zygote, de sorte que le nouvel individu hérite du père autant que la mère. Autant ou différent, il hérite du père et de la mère. Mais c'est une association permanente. De même, la nouvelle créature en Christ et en même temps le vieil individu renouvelé sont unis. La rencontre de Christ avec un être humain que nous sommes produit un être transformé. C'est pour ça que le mot transformation, métamorphose, ça convient bien à tout cela. La personne qui évite la rencontre avec Christ pour éviter de mourir à elle-même, compris le chrétien, manque le but de son existence. Du point de vue chimique et morphologique, l'ovule est un organisme fantastique, mais s'il ne meurt pas en fusionnant avec le spermatozoïde, il a vécu pour rien et il meurt seul. Tout homme est une merveille biologique, mais s'il refuse de s'unir à Christ, il est perdu comme l'ovule qui n'est pas fertilisé. Alors, appliquons ça de manière pratique. 50 à 51, c'est ce que fait l'apôtre Paul dans son chapitre 15. Paul traite de la mort et de la métamorphose de nos corps à la venue de Christ. Pour mieux comprendre ce qui se passe à la mort et à la résurrection, je rappelle comment Dieu a créé l'être humain. Dieu, par sa pensée, exprimée par sa parole, imposa un ordre spécifique à la matière, la poussière, si vous voulez, du sol. C'est Adam, Adama, c'est la poussière. Et il en a résulté un corps. Il a créé un corps. Deuxièmement, si vous lisez la Genèse, Dieu insuffla dans ce corps son esprit, par son esprit. Il insuffla la vie. Et troisièmement, le résultat, c'est qu'un être vivant, une âme vivante, un être vivant, qui a une personnalité, qui a une pensée, comme vous l'avez tous, vous avez une volonté, une personnalité, une pensée, une émotion, etc., est né. C'est pour ça que l'homme est une trinité à l'image de Dieu, corps, âme et esprit. Et que se passe-t-il après la mort? Tout le monde se pose la question. Et la Bible nous explique qu'à l'occasion de la mort de Jésus, donc à sa mort, dira Luc chapitre 23, verset 46, Jésus remit son... Non, justement. son esprit. Non, mais c'est de la théologie, là. C'est comprendre où est-ce que nous allons quand nous mourrons. Hein? Si vous voulez répondre correctement à des gens qui vous posent la question, c'est important de comprendre ça. Jésus remit son esprit entre ses mains. C'est étonnant d'ailleurs parce que mon père s'est toujours rebellé contre moi parce que voilà, j'ai quitté la religion catholique, c'était très très grave, pas plus que ça. Et quand il est mort, j'ai retrouvé un texte qui tremblait. Il avait écrit un testament, tout ça, voilà. Il avait écrit des choses et j'ai vu qu'il a barré juste avant sa mort, mais personne ne le savait, mes frères non plus, je leur ai fait découvrir. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il s'est passé quelque chose. Il a compris des choses. Pour moi, bon, il s'est opposé à moi, tout ça, mais le Seigneur travaillait son cœur. Et avant de partir, il a compris qu'il remettait son esprit entre ses mains. Ça, c'est la preuve que quelqu'un a compris ce qui se passait pour la résurrection. Et c'est pour ça que je sais que je vais le retrouver. Jésus a remis son esprit entre les mains du Père. Je ne sais plus où je suis. Cela montre que son esprit n'était pas identique avec sa personnalité, son moi. Jésus lui-même alla ensuite au paradis et prit le larron, croyant avec lui. Et dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 19, il est dit que Jésus serait allé prêcher à des personnes mortes en prison, en Hadès. En tout cas, une chose est certaine. Une personne sans corps peut avoir une activité en tant qu'âme vivante. À la mort, il y a donc désintégration de l'homme du côté de la poussière. Adam retourne à la poussière. Adam retourne à voilà, le corps. L'esprit et l'âme sont séparés. Et tous les morts sont dans cet état, nus, sans corps, oui. Alors, soit au paradis, soit en enfer. Soit, voilà. Et ils attendent le jour où Christ jugera les vivants et les morts, comme le dit Actes 10, 42. Où les justes seront revêtus de corps glorieux. En attendant, Christ, le ressuscité, possède les clés de la mort. Les clés, il n'y a que Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a accès à cet endroit en tout temps. Quand vous avez une clé, vous pouvez y rentrer. Sinon, vous ne rentrez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à la résurrection? Eh bien, l'Esprit du Christ, là je parle de la résurrection de Jésus, après je vais parler de la résurrection de nous. Jésus, quand il est ressuscité, donc il est parti auprès du Père, sans le corps, il est monté vers lui, etc. D'ailleurs, il l'a dit à Marthe et Marie qui voulaient le toucher. L'Esprit de Christ retourna dans son corps et l'âme de la personnalité de Jésus eh bien, est revenue dans ce corps. Jésus en a repris possession. Or, que nous dit l'Écriture sur le nouveau corps de Jésus qu'il a eu à sa résurrection? Son âme, l'essence de la personne de Jésus, est restée inchangée et seul le corps a subi une métamorphose. Ce nouveau corps gardait les caractéristiques de l'ancien corps et Marie a reconnu le timbre de sa voix. Vous voyez ? Marie, qui a entendu Jésus, il a dit « Rabboni, maître ». C'est le timbre de sa voix. Jésus a repris le timbre de sa voix. Thomas constate ses blessures. Jésus marche, il mange, il boit, il fait du feu. Il a chair et os, comme le dira Luc. Et d'autre part, le corps de Jésus a changé. Et il passe à travers des murailles. Il passe au travers des cloisons. Le corps a changé, l'âme et l'esprit sont restés intacts. La métamorphose de l'homme, rapidement. La Bible fait deux grandes promesses, une métamorphose du caractère et une métamorphose du corps. La métamorphose du caractère, c'est 2 Corinthiens 3, 18 qui dit « Nous reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit le Seigneur. » Cette transformation se fait maintenant. C'est pour ça dans les écoles bibliques, je sais qu'à Siefena, vous rabâchiez ça, il faut qu'un chrétien transforme son caractère. Voilà. Et c'est ni plus ni moins ce qu'on fait aussi avec le torrent qui purifie pour changer notre caractère pour qu'il reflète la gloire du Seigneur. Ça, c'est notre rôle aujourd'hui en tant que disciples de Jésus. Le corps, on reflète quelque chose aussi par le rayonnement, par on voit quelqu'un qui rayonne. Moi, j'ai vu une chrétienne formidable qui est morte et qui a un rayonnement. C'est le rayonnement, le corps reflète cela. Deuxièmement, dans Philippiens 3:20, il dit que la métamorphose du corps. Voilà ce qu'il dit dans Philippiens, l'apôtre Paul. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Les enfants de Dieu, en vie, au retour de Christ, recevront ce corps glorieux sans passer par le processus de la mort. On est d'accord, on a un clin d'œil dans le but d'hériter le royaume. Mais les autres recevront à nouveau le corps, mais le corps de résurrection. Tout ça, c'est mystérieux. Mais ce n'est pas un mystère comme les mystères du monde. On ne sait pas. On sait, puisque Jésus est ressuscité. Donc on sait. C'est simplement, il y a un temps. Vous voyez, pour nous, ce n'est pas un mystère. On sait qu'on aura le corps de Jésus. Donc, on n'est pas dans le mystère. On est simplement dans le fait qu'on attend juste le moment propice où Dieu aura décidé que ça arrivera. C'est tout. Donc, nous sommes dans l'attente de cette réalité. Le corps spirituel dérive du corps charnel. Alors là, j'ai juste un message à donner à chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il faut garder le corps pur. Pourquoi garder le corps pur ? Les philosophes disent non, non, on profite de la vie parce que de toute façon le corps il vaut rien. Alors soit il y a les ascétiques ou soit les épicuriens, enfin épicuriens, non, désolé, c'est pas tout à fait ça, mais ceux qui profitent du corps. Voilà. Donc ceux qui font dans le plaisir ou ceux qui vont dans voilà, qui veulent chercher à durcir les choses dans le corps. Ben non, la parole de Dieu nous dit que il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. Afin qu'il soit rendu à chacun selon ce qu'il aura fait de son corps. Soit en bien, soit en mal. Donc vous voyez, la morale s'applique à nous. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça récemment, à mon voisin qui doutait de ma parole, j'ai dit, vous savez, moi, je ne sais pas si vous croyez ou pas, mais moi je dois répondre à Dieu. Donc moi j'ai la crainte de Dieu. Il en fait ce qu'il veut, mais je dis, je n'ai pas besoin d'avoir peur de vous. Mais moi, je vais d'abord rendre compte à Dieu. Celui qui pêche contre son corps, adultère, prostitution ou autre, peut perdre l'héritage dans le royaume de Dieu. C'est Éphésiens 5:5 qui le dit. Mais s'il ne perd pas le salut, mais il perd l'héritage. Est-ce que vous voulez un héritage ? Non. La parole de Dieu parle du corps. Ce que vous faites dans votre corps. Le salut, nous le recevons par grâce, okay, une grâce pure, par la foi en Jésus-Christ. Mais ce que nous faisons dans notre corps et de notre corps est terriblement important. Que Dieu veuille le transformer totalement indique qu'il aime l'homme dans sa totalité, dans sa plénitude. Et dès ma nouvelle naissance, Jésus-Christ et moi, nous appartenons l'un à l'autre. Par cette union avec Christ, Christ, peu à peu, veut croître en moi et me rendre plus semblable à lui jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. En disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, Éphésiens 4. Notre vie veut paraître bien ordinaire, mais si nous nourrissons de lui, notre transformation en lui se fait insensiblement pour éclater lors de son retour nous serons révélés comme fils de Dieu. La chenille mange des feuilles et de l'herbe, une occupation très ordinaire. Mais quand elle est révélée comme papillon, c'est une merveille. Ainsi, l'homme est destiné à être revêtu d'incorruptibilité, comme cette chenille, au retour de Christ, pour régner avec lui dans le royaume éternel, comme le papillon. C'est l'image la plus juste, c'est celle-là. N'oublions pas que notre vieille nature doit mourir, que nous devons dire non aux désirs et aux passions charnelles impures, et oui à la vie pure en Jésus-Christ. Christ a dû passer par la mort pour être glorifié et assis à la droite de Dieu. Le chemin est le même pour nous, sans pour autant qu'il ait valeur d'expiation. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, pour terminer le verset 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je voudrais vous dire, chers amis, vous qui avez, je sais que beaucoup d'entre vous ont cette vision, c'est pas nouveau ce que je raconte ce matin, mais restez fermes, parce que vous avez la bonne part. Et si vous restez dans cette perspective, vous allez hériter du royaume et de tous les bienfaits, tout ce que vous aurez appris sur cette terre va vous servir à gérer les nations, à gérer des choses par la suite. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas juste sauver pour échapper à la perdition, comme au travers du feu, où voilà, tout la paille et tout ça, ça va être brûlé. Non, non. Ce que vous faites ici, en tant que chrétien, où vous cherchez à plaire au Seigneur, ça va vous servir parce que vous apprenez maintenant à gérer le royaume. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce chapitre 15. C'est vrai qu'il faut relire parce qu'il est très profond. Et ce matin, on n'a fait que survoler les choses. Mais Seigneur, tu nous aides à le comprendre, à le saisir, à le mettre en pratique, parce que c'est alors que nous vivrons au travers de ces réalités. Au nom de Jésus. Amen.